qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Yo yo yo, chers auditeurs.
Yo yo yo, chères auditrices.
Et bienvenue dans Cours d'honneur, la meilleure émission de Radio Sorbonne Université.
Tenue par votre joyeuse bande de la première radio étudiante de la plus belle fac de France.
Ce soir, c'est le retour du duo des semaines paires au platine.
Mélie, faudrait peut-être qu'on songe un peu à se renouveler, non? Enfin, j'ai comme l'impression qu'on surfe toujours un peu sur les mêmes vannes.
Ouais, c'est vrai, mais comment? Attends. On me dit dans l'oreillette qu'on part demain à Banyuls-sur-Mer dans la station océanographique.
Mais oui! La voilà la solution. Finito pipo pour Roscoff et... Le soleil, l'air marin, ah, voilà qui va nous faire du bien.
Ah, je regrette de pas pouvoir venir. Je compte sur toi pour nous ramener des nouvelles refs à utiliser.
Bien sûr, mais revenons à nos moutons. Pour l'heure, c'est avec toi, Mélie, star de la dictée nationale.
Et avec toi, Victoire, dealeuse de sacs de couchage, que nous allons présenter cette émission.
Donc, pas de panique, n'éteignez pas votre radio. Ce soir, on vous promet une émission plus qu'à la hauteur, avec du sport.
Et les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts.
Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas.
Allez.
Second poteau, Pavard.
Oh C'est une Pavard et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match!
Mais aussi des débats poignants.
Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Arrêtez.
Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur Cahuzac.
J'arrête de vous traiter de clown quand vous cesserez de le faire.
Et de la poésie, bien sûr.
On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi?
Dis-moi, Victoire, l'équipe est au rendez-vous ce soir, à peine la place de tous tenir autour de la table.
Mais tout à fait, Mélie. Ce soir, on a Lilou. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Ça dit quoi pour le grand comeback?
Bah écoute, ça dit qu'on va faire un comeback en musique.
Merci.
Préparez-vous.
Elle dit vrai.
Jeanne, on te souhaite tous une chronique sans quoi que ce soir, que chacun puisse finir sa réplique, que tous les micros soient ouverts. Mais la malédiction de la semaine paire reste inchangée depuis que Victoire et moi avons pris les plats de Chine. Pour cette énième tentative de chronique sans sabotage, tu nous parles de quoi?
Bonsoir à tous, écoutez, je vous parle
de scène ouverte ce soir. Super, et toi Victoire, tu nous aurais pas préparé un truc en plus de l'animation ce soir?
Oui, tout à fait, avec Maëlys, on est allé à la rencontre de William Petit et Serge Thorenberg. Attends Mélie, il est pas là notre bilôme infernal, mais pourtant, il y a tout de même Abel qui s'est échappé de l'EHPAD. Vous avez trouvé un peu de temps entre les tisanes, les mots croisés, la crème anti-âge?
Que dis-tu? J'entends mal. Comment? Le général de Gaulle a débarqué?
Alors oui, malheureusement, mon duo n'est pas là. L'Odin est retenu par ses petits enfants et ses varices.
Soirée bridge.
Soirée bridge. Mais moi je suis là ce soir pour vous parler, pour faire un hommage à un professeur de la Sorbonne qui vient de décéder, on l'apprend il y a une semaine.
Bon, on rigole, mais vous faites du bon taf. Après, bon, il y a la chronique poésie, personne ne peut vraiment rivaliser. Mélina, qu'est-ce que tu nous déclames de beau ce soir?
Ce soir, je vous parle d'éco-poésie avec mon invité Dorsen.
Et puis Thomas, stagiaire, régisseur, chroniqueur et chasseur de têtes à ses heures perdues. Alors, chronique ou pas ce soir?
Non, ce soir, moi j'ai juste préparé mon petit sac à dos avec la crème solaire et la serviette de plage, puisqu'on va enfin quitter Paris. Pour aller à Banyuls, bien sûr.
Bref, une sacrée équipe.
Ok, bref, merci. Allez, next.
Merci Thomas.
Une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux et en direct un vendredi par mois.
Cours d'honneur, saison 3, épisode 20.
C'est parti.
Oh, il était sympa le petit air qu'on n'a pas joué tout à l'heure.
Bah ouais, c'était un petit truc un peu touloulou, un truc comme Animal Crossing, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, un truc très summer vibes, très citronnade et coups de soleil.
Ouais, enfin, c'est mimi, tu vois, mais je sais pas, je suis pas non plus transportée au max, là. J'ai vraiment du mal avec des... Enfin, j'ai vraiment du mal à trouver des sons qui font vraiment penser à l'été, tu vois.
Ah, mais t'inquiète, Lilou a la solution pour toi, elle a une playlist qui tue.
Ah ouais ? Et c'est quoi le nom de cette playlist ?
Un truc comme l'édito, la carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Aujourd'hui, dans l'édito, Lilou vous fait une playlist 100% vibe sudiste pour vous mettre dans l'ambiance de l'émission spéciale Bad News.
Et oui les amis, au cas où ça vous aurait échappé, bon on l'a déjà dit trois fois depuis le début de l'émission, mais à court d'honneur, ça fait plusieurs fois qu'on prépare, ou plutôt Thomas, notre commandant en chef, une nouvelle émission spéciale. Vous vous souvenez certainement de l'incroyable émission à la station biologique de Roscoff. Eh bien, dès demain, on remet le couvert et on part visiter l'autre station biologique et campus de la Sorbonne Université, mais cette fois-ci à Bagnols-sur-Mer, tout en bas de la France, à la frontière entre les Pyrénées et la mer Méditerranée. Et pour nous préparer comme il se doit à ce séjour sudiste, je vous ai concocté une petite playlist 100% soleil, 100% très mauvais accent, bref, 100% sud. On commence donc avec, évidemment, Nino Ferré, le sud. Bon, ok, ça parle pas exactement du sud en tant que tel, mais c'est un hymne à la beauté de nos campagnes, vous avez la ref, et on l'aime quand même, et puis ça nous fait rêver avant de quitter Paris.
On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement.
À Bagnols-sur-Mer, donc je vous l'ai dit, on est près des Pyrénées, à la frontière de Espagne. Et oui, je pouvais pas résister à vous mettre dans l'ambiance de la fête espagnole et des bailes endiablés sur les plages du village avec ce son. Et oui, vous l'aviez reconnu, Bamboléo, les Gypsy Kings, qui d'autre, un must-have pour arriver préparé à la frontière. Et puis, comme on se rapproche de l'ambiance caliente. Alors, certes, l'artiste n'est pas du sud, mais suisse, c'est toujours plus bas que Paris. Et je voulais vous faire découvrir Varnish la piscine, si vous ne le connaissez pas encore, avec son titre Adios Tornados Effect. C'est un peu le son pour boire un cocktail et se déhancher au bord de l'eau.
Adios, ça me dit quand elle fly. Big and the sexy. Elle fume dans sa chambre avec ses potes. Toujours en sexy woman.
Thomas, j'ai l'impression que t'as pas kiffé le son.
Non, mais laissez-moi là, je vais vous ralentir.
Ok. Et enfin, je suis sûre que vous l'attendez tous autour de la table et chez vous, dans vos oreilles. On finit avec l'unique, le seul hymne marseillais qui a conquis même les supporters du PSG, ses bandes organisées. Of course.
Les affaires Zumba, café au, café au carnaval. Je suis dans le 4-4 teinté, pisté par la banale. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Hasta luego. Hasta luego. Égal, illégal.
Et ça, c'est clairement le genre d'ambiance qu'on veut le samedi soir. Après l'émission, après notre dur labeur. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, on vous donne rendez-vous sur nos ondes très prochainement à Bagnols.
Et vous, autour de la table, c'est quoi vos sons de l'été incontournables ?
C'était. J'avoue, bande organisée, ça l'a été, mais j'étais étonné de le voir. On dirait Thomas qui lance des playlists avec des sons qui datent un peu.
Mais je fais un truc iconique en fait.
En vrai, et les Gypsy Kings, ça c'est indémodable. Hein. Honnêtement, en plus, je les ai vus en concert. Il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Vraiment? Vous ne croyez pas? Ils sont vivants, ils font encore
et
des.
Et t'as
concerts.
Kiffé?
Big up à Kenji Girac.
J'avoue, big up à Kenji à l'hôpital.
On est avec toi, mon frère.
Ils avaient aussi Kenji Girac comme son de l'été, mais peut-être qu'il n'en fera plus. Hein.
Si, on y croit, je garde espoir, moi. Personne d'autre, il y a que Abel qui écoute les Gypsy Kings. Je sais pas, il y a Thomas, il met sa musique préférée, je crois.
Ok.
Ok, mais super, hein, écoutez. Bon, parfait. Et bah écoutez, notre quotidien, nous, aujourd'hui...
Ça vous dit rien, quand même? Moi, c'est ça, le son de l'été, Lilou. Lilou, okay. elle a déjà entendu cette musique-là.
Ça va me revenir.
Non, ça vous dit rien? Bon bah écoutez, les jeunes, faut sortir un peu plus, hein, c'est de la cumbia. Et clairement, si vous voulez pécho l'été, c'est un bel, c'est pour toi ça. Retiens bien, tu notes sur un bout de papier.
Mais tu sais que, alors ce n'est ni Chirac le président et c'est plus les francs, faut arrêter. On ne pécho plus sur ça l'été, Thomas, vraiment.
Moi je valide Thomas, t'inquiète.
Merci, au moins une, c'est déjà ça. Merci Lilou.
Bah nous notre quotidien, mis à part les flops de Thomas, c'est un peu les JO actuellement. Et je sais pas, t'en penses quoi toi Mélie?
Bah moi je pense que comme les balles de tennis des prochains JO qu'on entend déjà rebondir dans la vie, il y a des hauts,
il y a des bas.
Maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Le dernier compte à rebours des JO est lancé. À moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture, les étudiants sont-ils enthousiastes à l'approche des Jeux de Paris ?
Entre les déplacements d'étudiants, de sans-abri, les promesses de jeux écolos, est-ce qu'on a hâte de cette grande fête du sport ?
On a posé la question au Sorbonnard de la Cour d'honneur.
C'est le rêve de gamine qui est toujours là. Et je sais qu'il y a énormément de problèmes et que c'est vraiment pas pardonnable. Mais il y a toujours ce rêve qui est là en moi, la gamine qui est toujours en moi, qui a toujours envie de rêver et du coup... Mais en vrai, ça me fait envie quand même.
En vrai, c'est cher. Il n'y a pas d'épreuve près de chez moi. Et franchement, ça ne m'intéresse pas particulièrement de base. Donc bon. Par contre, je bosse pendant les JO. Donc du coup, j'aurai des touristes. J'aurai des touristes qui viennent se rendre pour boire dans le restaurant. Donc ça, au moins pour ça, je suis content. Tu vois.
C'est pas un truc auquel je ne m'intéresse pas particulièrement. Et je n'irai pas particulièrement voir les épreuves. Et surtout que ça bloque Paris plus qu'autre chose. Donc pas particulièrement, je dois avouer.
Pas du tout. J'espère vraiment que ça va foirer et que ça ne va pas marcher et que ça va être un calvaire et que, comment dire, que ça va bien montrer à quel point on n'était pas préparé. S'il y a des manifestations, je m'y joindrai avec plaisir.
Moi, mes trams, ils vont être supprimés, mes métros aussi. Je ne pourrais pas circuler, donc c'est pas terrible. C'est vers Porte de Versailles, donc...
Ça m'est égal, je m'en fous. Je suis pas au courant des conséquences. Et ça m'intéresse pas, je vais juste faire avec.
Chaud. Je vais essayer de rester à Paris et de travailler. Et dans l'idéal, ce serait de travailler dans un hôtel 5 étoiles, comme ça j'aurais plein de pourboires.
Ouais, effectivement, chaud pour les JO, mais je pense que ça va être très compliqué. L'ambiance, pour l'instant, c'est vraiment pas... Je veux dire, c'est pas une super ambiance autour des JO. Ça a l'air d'être compliqué au niveau des transports, de la gestion, de tout ça.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner, dans le sens de... hâte de voir le chaos que ça va être. J'ai fait le choix de rester à Paris justement pour voir ce que ça va donner.
Et vous, autour de la table, j'ai vu que ça avait suscité des réactions. Vous en pensez quoi, des JO ?
Moi, c'est ce qui m'a payé mon loyer, mon repas. Donc, je ne dis rien puisque je travaille pendant les JO pour des Américains.
Ok.
Donc voilà.
Tu fais quoi ? C'est archi.
Non, je bosse pour l'entreprise qui filme les images des JO et qui les retransmet à la télévision, à la radio, enfin au BS. Moi, je croyais que c'était Nouvelle Obs au début, donc j'étais trop contente. En fait, non, pas du tout. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Juste qu'ils m'acceptent mon CV si possible, parce que là, c'est un peu chiant.
Ah, passe un petit message. Merci beaucoup. Mélina, on t'a vu réagir aussi ?
Alors moi c'est tout le contraire, très honnêtement. Non mais ça va faire 3 ans que j'habite à Paris, donc j'ai un peu pris d'aigreur dans mes réactions. Ça m'embête un peu, hein, ça m'embête un peu. J'ai peur de ce à quoi ça va ressembler, les transports, le travail, virer les étudiants de chez eux. C'est pas forcément quelque chose que je soutiens, donc j'ai du mal avec cette entreprise là. Voilà.
Merci pour ces avis tout à fait partagés.
Et Victoire, à l'instar de nos stars du sport, tu sais qui sont des stars aujourd'hui ?
Je sais que t'es passée à la télé de la grande dictée des jeux, mais peut-être pas trop abusée non plus, Mélie.
Ah non, t'inquiète, j'ai pas pris la grosse tête, promis. Aujourd'hui, Victoire, c'est l'anniversaire de ma maman et de mon petit frère. Sacré cadeau d'anniversaire. Donc ils ont chacun choisi une musique. Tout de suite, c'est le Graal de Kyo.
sait compter les cartes. Mais dans ma manche se cache un cinquième as. Tout se mélange ici, les hommes et les femmes. L'alcool et les corps, des glaçons dans les flammes. Comme une vie, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Le bâtard, c'est dans les peines. J'arrête de fumer, de boire, j'en dis mon chaque semaine. J'ai rechuté.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM et il est 20h17, c'était le Graal du groupe Kyo.
Non mais attends, moi je comprends pas, Sarkozy il est toujours président, c'est ça? On me dit que c'est fini, mais je suis désolé, Kyo c'est ma génération.
Mais c'est qui qui a choisi?
C'est ma maman.
C'est ta maman qui a choisi Kyo. Bah voilà, c'est la maman de Méline, donc c'est un peu ta génération.
Ah oui, donc ceci explique cela, mais on est d'accord que Kyo c'est pas du tout...
Nous, autour de la table, ça s'est affolé plus à nouveau autour des JO qu'autour de la musique. Donc, on voulait savoir...
Est-ce que vous êtes fait virer de chez vous? Est-ce que vous avez des places?
Il y a Mélina qui en a
quoi,
parlé,
votre
justement.
Actualité des JO.
Moi, j'ai des places pour l'équitation au château de Versailles. Je crois que c'est un genre... Je connais pas les trucs d'équitation, c'est qu'il y a genre le saut, le dressage. Voilà. Hein. Mais j'ai des places pour l'équitation au château de Versailles, ouais. Je les ai eues grâce à un genre gratuitement parce qu'il y a eu un concours, mais je sais que de base elles sont genre à 300 euros. Oui, c'est hyper cher. Déjà, faut être tiré au sort, et si t'as la chance d'être tiré au sort, tu payes 200 ou 300 euros pour aller voir des chevaux, genre des chevaux.
Genre, tu vas à la campagne quoi.
Genre, tu vas au bois de Vincennes, il y a la garde nationale qui fait. C'est la même chose. Hein.
Et non, sinon, ce que je vous encourage à faire, c'est pour les Paralympiques. Parce qu'ils ont 2 millions de places et actuellement ils en ont vendu 200 000. Donc ça fait un peu peu. Donc non, aller voir les Paralympiques, c'est quand même, il faut les encourager et on n'y pense jamais, mais si, c'est important. Voilà.
Et puis il y a des moments où ils sont trop stylés. Genre, je sais, j'avais vu le basket en Paralympique et c'était incroyable.
Ah, mais ouais, comme ça, l'escrime, c'est un truc à voir. Tu te dis, ah ouais, ok.
C'est laborieux.
Il faut une relance.
Il y a trop de choses.
Il y a trop d'infos.
Dis-moi, Mélie, c'est tout JO aujourd'hui?
Bah oui, Victoire, tout le monde sait que tu veux être journaliste sportif, alors on met le paquet pour que tu aies des contacts.
Ça, c'est sympa. Hein. Et puis, travailler sur le sport, ça va nous faire du bien dans cette équipe d'étudiants débordés par les cours et les soirées. Il n'y a pas vraiment le temps de faire du sport, en fait.
Bah, marcher du métro à la fac, c'est du sport. Et puis, la Sorbonne, c'est super grand. On les fait nos 10 000 pas par jour.
En parlant de ça, je me souviens avoir fait avec Maëlys 10 000 pas en direction de Jussieu pour interviewer Serge Thorimbert et William Petit, tous les deux chargés de mission sport et Jeux Olympiques.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Serge Thorimbert, bonjour, vous êtes professeur de chimie et chargé de mission sport et Jeux Olympiques. William Petit, vous êtes professeur de PS spécialisé dans la boxe française, la course à pied et la préparation physique à Sorbonne Université. Bonjour à tous les deux. Quelles sont vos activités au sein de cette mission sport et Jeux Olympiques?
Bonjour, donc William Petit, enchanté. Ma mission principale, c'est de promouvoir l'activité physique et le sport, donc ces deux notions au sein de Sorbonne Université, c'est de développer toutes ces notions.
Alors, Serge Toinbert, donc je peux compléter en disant qu'on sert aussi de relais entre l'université et toutes les instances supérieures. Ça peut être le rectorat, le ministère, et essayer à travers cette mission faire un peu de communication auprès de l'extérieur pour mettre en valeur Sorbonne U.
Beaucoup d'élèves aujourd'hui ont parfois du mal à lier sport et études, notamment à cause de la création des emplois du temps. Avez-vous un rôle de coordinateur dans ce genre de situation et avez-vous la possibilité de venir en aide aux élèves sur ce genre de problème?
Alors le rôle de la mission n'est pas là du tout. Éventuellement, on peut essayer de pousser et de signaler que cette difficulté existe bien, mais les gens qui s'occupent des emplois du temps, à la fois en sont conscients et à la fois eux-mêmes ont pas mal de contraintes pour placer tous les enseignements.
Il y a aussi deux dispositifs, donc un au niveau du DAPS et un au niveau du service des sports, qui sont en relation avec les différents UFR pour un aménagement d'études pour les sportifs de haut niveau qui sont sur les listes ministérielles.
Donc, par ailleurs, par rapport aux aides étudiantes, est-ce que vous avez des partenariats qui permettent de fournir des aides aux étudiants durant les Jeux Olympiques?
Alors oui, un partenariat important a été entre la Fondation Sorbonne Université et le Crédit Agricole Île-de-France, où il y a un financement pour les sportifs haut niveau, un certain nombre seulement, pas tous, hein, puisqu'on a près de 50 sportifs haut niveau à l'université par an.
Justement, ces athlètes, comment se passe la sélection des sportifs de haut niveau pour les JO?
Alors, pour les JO, ils sont sélectionnés par leurs fédérations respectives et il y a des échéances en fonction de leur classement. Donc, il y a des équipes, par exemple, si on prend la natation synchronisée qui est qualifiée d'office, et c'est la fédération qui vont choisir les nageuses ou les nageurs qui vont intégrer les JO. Et après, pour les sports individuels, il y a différentes compétitions. Il faut performer sur les différentes compétitions avec un ranking. Donc pour par exemple le judo, il faut être la numéro 1 française ou le numéro 1 français pour pouvoir participer. Et sur des compétitions comme l'athlétisme, c'est des minima à faire, donc des temps chronométriques à faire. Et après c'est la fédération qui se réunit pour sélectionner les athlètes sélectionnés.
Et par ailleurs, est-ce que l'université touche un revenu s'il y a victoire dans un étudiant sans l'université?
Aucun revenu pour eux. Pas pour l'université, aucun revenu, et c'est après en fonction des médailles que les athlètes ont, donc que les étudiants ont, il y aura une bourse qui est donnée par le ministère des sports. Mais sinon l'université, rien du tout, à part la notoriété.
Oui, je peux rajouter que l'université, on a un engagement pour former les jeunes, que ce soit pour leurs études, développement futur professionnel, mais également on essaye de les accompagner pour qu'ils puissent allier aussi le sport au niveau, à travers l'aménagement des études. Quoi.
Est-ce que pour justement faire rayonner l'université, il vous arrive d'organiser des événements de lancement avant les JO, justement pour faire un peu de communication?
Donc, il y a plusieurs événements qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Donc, par exemple, on a mis en place différentes participations à des événements de course à pied. Donc, par exemple, le Paris-Versailles en septembre dernier et là, le Semi de Paris en mars dernier. Donc, à chaque fois, il y avait 150 personnes qui ont représenté l'université sur ces courses. Dans un peu moins d'un mois, il va y avoir la mise en place d'un tournoi européen avec les membres de l'Alliance For You Plus. Donc sur les 6 universités étrangères qui sont partenaires avec Sorbonne Université. Donc là, un tournoi multisport pour faire connaître Sorbonne Université par le sport sur cet événement.
Autre chose aussi, faire reconnaître nos sportifs au niveau, c'est les grandes photos qui sont actuellement affichées sur les grilles du campus Pierre-Marie Curie. Et dans quelques jours maintenant, on va dire, il y aura des expositions, photos, autoportées dans tous les campus, Clignancourt, Malesherbes, Pitié et ici.
Vous parlez aussi également de débats, j'ai vu sur votre page. Donc, est-ce qu'il traite de sport? Sur quel aspect? De sport en général? Vous avez un sport précis sur lequel vous parlez?
C'est sur des notions plus transverses. Donc là, avec les alumni, on a mis en place une conférence débat sur géographie et aménagement du territoire par rapport aux Jeux Olympiques. Donc voir un peu comment ça se construit autour, la notion aussi d'héritage qui est mis en place par rapport à ces jeux.
Et dans quelques temps, nous allons accueillir la Fédération française du sport universitaire. Il y a deux grands débats, et entre autres sera la place des femmes ou l'évolution des femmes et du sport, qui vont avoir lieu sur le campus Pierre-Marie Curie.
Justement, la lutte contre les inégalités de genre dans les sports rentre, donc j'imagine, dans votre champ d'action. Est-ce que ça passe uniquement par des débats ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'en parler ?
Non, il n'y a pas eu. Dans notre mission, notre mission n'est pas là pour essayer de corriger le tir, mais au sein de l'université, il y a des chargés de mission, des vice-présidences, mais dans le cadre de notre mission, exactement, non, ça ne fait pas partie de notre mission, même si on essaye de voir. Par exemple, il y a des défis qui sont mis en place tous les mois et on a essayé, pour faire des récompenses, d'équilibrer hommes et femmes. Et je signale que c'est surtout les femmes qui participent à ces défis, donc félicitations à elles.
Et donc, notamment, vous dites lutter contre la sédentarité. Par quels moyens vous y parvenez ?
C'est inciter nos étudiants et nos personnels à faire de l'activité physique et du sport. Donc je différencie un peu les deux, parce que souvent le sport, on a cette notion de compétition derrière. Et sur l'activité physique, c'est vraiment, entre guillemets, donner des habitudes de santé. Donc ça soit sur le fait de prendre des escaliers au lieu d'un escalator, se déplacer en vélo, marcher. Et c'est vraiment de l'incitation à. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation et ce qui, pour nous, nous semble vraiment, vraiment important là-dessus.
Et dans le cadre des défis qu'on a mis en place maintenant depuis quelques mois, on essaye de promouvoir ces petites activités physiques de tous les jours, quoi. Et on espère que les gens retiendront et continueront après les JO.
Et enfin, la question que nous posons à tous nos invités, que représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, pour moi, c'est le lieu où je travaille, c'est un lieu de savoir, un lieu où on passe aussi, on forme les futures générations en tant qu'enseignant, c'est un peu ça. Donc la Sorbonne, c'est... Alors moi, je suis scientifique, donc je suis plus historiquement l'université Pierre et Marie Curie. Donc la Sorbonne, c'était un peu plus loin, mais en général, c'est un lieu de savoir qu'on passe et de génération en génération.
Moi, je rajouterais aussi un lieu d'échange entre les différentes générations. Et c'est vrai que voir nos étudiants évoluer, c'est toujours un petit plus quand on les retrouve après dans le monde professionnel. On se dit qu'on a quand même apporté une toute petite chose, mais qui a bien fleuri. Et c'est vraiment assez sympa.
Merci beaucoup, William Petit et Serge Thorenberg, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Au revoir.
C'est décidé, je me mets au sport, tout ça m'a motivée.
Ouais, on y croit tous, t'inquiète, dans 2 semaines, et je suis gentille, tu nous dis que, en fin de compte, tu préfères encourager les joueurs.
Ouais, bon, t'as peut-être raison, hein. Mais tu vois, je me vois bien comme ça, déclamant que le handball français est le meilleur et qu'on va récupérer toutes les médailles.
En déclamant, carrément ? Tu veux pas laisser ça aux comédiens ? D'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà pris une longueur d'avance, mais je laisse Jeanne te raconter ça tout de suite, c'est la débrouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table !
L'art, le cœur même de la Sorbonne, qui n'a jamais rêvé de se tenir sur l'estrade de l'amphi Descartes pour déclamer du Tolstoï à une salle remplie.
Apparemment, il n'y a que toi, Jeanne, mais ton délire tombe à pic puisqu'on va discuter poésie ce soir. Tu vas nous parler des scènes ouvertes accessibles aux étudiants.
Et oui, car la chronique des brouilles, ce n'est pas que pour votre quotidien, mais aussi pour vos carrières. Alors ce soir, je m'adresse à tous les timides qui ont peur du micro, les étudiants pour qui le seul public reste leur voisin qui tape sur le mur pour demander à baisser le son, ou encore les âmes en peine qui cherchent simplement à se faire connecter et à connaître et à dépasser les petites lignes de leur cahier taché d'encre et de café. Ce soir, je me mets en mode partie planeuse pour votre carrière artistique. Car oui, on ne pense pas souvent à la scène ouverte. Pourtant, la liste des célébrités qui ont commencé par là est aussi longue que les bibliographies de cours d'histoire. Eminem, Lady Gaga, Musset en un sens, et encore l'hémophile, que l'émission Cours d'honneur avait reçue il y a quelques mois. Bref, la scène ouverte est presque un incontournable pour se lancer dans le milieu. Alors voici deux idées de scènes ouvertes pour tous les domaines. Pour le premier, pensez Payette, la 42e rue ou West Side Story. Je vous emmène à Broadway au Café de Paris, au 158 rue d'Oberkampf. Une fois passé la première partie du bar, vous vous retrouverez dans une salle entourée de canapés en cuir et de longues tables alignées. Sur scène, deux animateurs, Jérôme et Maria Christina, que j'ai eu la chance de rencontrer. Devant eux, deux micros, le Barbara Streisand et le Judy Garland. Ce n'est pas moi qui les invente, puisque justement je m'y suis rendue pour soutenir une amie, la semaine dernière, qui chantait. La salle est remplie de monde et la liste d'attente pour chanter est complète en seulement une vingtaine de minutes. Tout le monde chante dans une ambiance bienveillante. Si vous sentez que la comédie musicale est faite pour vous, c'est l'endroit idéal. Si, comme moi, vous restez en Grinch dans votre coin de salle, vous pouvez rester avec votre bière en dodelinant de la tête, il n'y a aucun problème. La prochaine séance aura lieu en juin puisque celle de mai est déjà complète. Changeons de domaine et passons au vif du sujet, la poésie. Paris ne manque pas de scènes ouvertes pour lire vos textes. L'une de celles que je peux vous recommander est probablement le spoken word. Toutes ces séances se déroulent au sous-sol du bar la Cave Café. Principalement anglophone, les soirées sont ouvertes à tous avec un tarif d'entrée de 1 euro et à toutes les langues. Le public est accueillant et encourageant. Et encourage vivement ceux qui passent. On y voit passer de tout, des habitués aux débutants, avec chaque lundi un invité spécial différent. Bref, tout simplement, lancez-vous. Ce serait dommage de passer à côté d'une occasion de ne pas faire entendre vos voix autre part que dans une manifestation.
Alors, oui, vas-y. Je me permets de rajouter en petit spécialiste que je suis, qui a également le Bœuf Monstre au Nouveau Cosmos.
Oui, tout à fait. Oui.
Et les copines de Manche Témo, qui sont tous les premiers dimanches du mois, oui, me semble-t-il.
Dans le 20e.
Exactement, Lou Pascalou au Ménilmontant. Voilà, donc c'était pour compléter Alice.
Tout à fait, tout
à fait.
Et c'est
des scènes qui sont très accueillantes et effectivement, là aussi, des grandes célébrités ont commencé.
Ok, trop intéressant, let's go. Vous vous sentiriez, vous, de monter sur une scène ouverte comme ça?
Quand j'étais... Mélina le fait tous les samedis. Mais
Mélina le fait souvent, mais Dorsen le fait très souvent aussi. C'est comme ça qu'on a commencé, voilà, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, on fait des scènes pas ouvertes, des scènes fermées, semi-fermées, entre-ouvertes. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. Ça a lancé beaucoup de gens dans la poésie. Ça a permis à certaines personnes de rencontrer des éditeurs IS aussi. Donc c'est vraiment une super occasion et je ne peux qu'encourager les gens à le faire, à Belle, désolé d'avoir coupé la parole.
Non, moi je voulais raconter que quand j'étais petit, je faisais de la guitare et le jour de la fête de la musique, j'ai fait une scène ouverte dans le 11e, c'était, comment ça s'appelait ? C'était une rue dans le 11e vers Voltaire et genre je le referai plus jamais parce que genre je serais trop timide, mais comme quoi quand on est petit, on n'a pas la barrière sociale et genre je me suis dit, je savais jouer le générique de James Bond à la guitare. Je me suis dit, ah ouais, trop bien, genre je vais aller faire ça, la fête de la musique, devant 100 personnes dans une rue, alors que jamais je le ferai maintenant. Mais voilà, c'est juste pour dire ça.
Merci Abel. Mélina,
je veux juste rajouter un tout petit truc, parce que du coup, on touche à notre passion, à notre spécialité. C'est pas une scène ouverte, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, je pense que ça peut les intéresser. Jusqu'en mai, je crois, la première semaine de mai, il y a le concours international de poésie de la Sorbonne, qui est organisé par Sorbonne Université, mais tous les étudiants et étudiantes du monde entier, quel que soit leur avancée dans leur cursus, peuvent candidater. On a plusieurs centaines de poèmes qui sont envoyés chaque année. On a 5 prix. Tous les prix sont récompensés par 490 €. Donc, si ça peut vous motiver, allez-y. Et donc, la cérémonie de remise des prix sera, si je ne me trompe pas, le 22 juin. Donc, voilà. C'est ouvert à tous et on a hâte de vous lire.
Et allez-y. J'imagine, j'y pensais depuis tout à l'heure, que la chanson précédente, c'était le choix de ta maman. Hein.
Bien vu, Sherlock. Voilà. C'était difficile pour elle de nous dégoter une chanson relativement récente et à son goût, mais c'était sympa comme choix.
Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il nous propose, ton frère ?
Lui, c'est un peu plus Jones, comme on dit. Tout de suite, on écoute Sprinter de Central Cee et Dave, mais pas celui qui chante Vanina.
The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim and them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it.
Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. We're bae through thick and thin, she already fixed so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there.
100 meters. I just put 9 gal in a sprinter.
100 eaters, it won't fit in one SUV. No. SOS, somebody rescue me. I got too many, many, and I got. They could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address through, please.
SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack. More time, man, build a line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I ball, no yellow, the ref have to give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat. Sprinter, 2 gal in a van, inter. 2 man in my line, heard one of my things dating. P Diddy need 20% or whatever she bags. Outside, my head in my hands.
I told her my name is Sam. She said no, the one on your birth certificate. Your boyfriend ran from that diamond test, cause they weren't legitimate. She Turkish Cypriot, but her car's Brazilian. I want her, my bro wants her affiliate. I'm cheap, still hit a chick like, yo, can I borrow your Netflix? She a feminist, she think I'm sexist. Twisting my words, I think she dyslexic. Give me my space, I'm intergalactic. Before I give you my Insta password, I'll give you the pin to my Amex. Alright, this ain't stainless steel, it's platinum. Dinner table, I got manners. T-shirt tucked in napkin. Still loading, that's the caption. I've only amounted a minimal fraction. Eat good, I got indigestion. Best snow in my hood, no aspirin. Can't get rid of my pain with aspirin. Dave just came in an Aston, I'm making that Maybach music. They're trying to insult my intelligence, sometimes I may act stupid. I never went uni, I've been on a campus selling cocaine to students. If bro let the drumstick beat, then something gon' leak, we ain't playing exclusives.
Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. We're bae through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter.
100 eaters, it won't fit in one SUV, no. SOS, somebody rescue me. I got too many, all I got. They could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address through, please.
Fire for a wife, beat, I can't rock with that, I ain't wearing a vest. Man have to send her therapy, she got an E-cup bra, a lot on her chest. I'm in Jamaica, Orica best. Hit a lick when cash converters, that don't work, it's porno chess. I'm doing more and talking less. I love chilling with broke bitches, man, but one flight and they're all impressed. I'm in the G63, the car hugged me like a friend through twists and turns. Man living for Nyash and dying for Nyash is fucked. Don't know which one's worse, I'm fucked. Bags in his and hers, what's hers is hers, what's mine is two. Heard that girl was a gold digger, it can't be true, she dated you. AP baby blue, papers pink, I probably hate me too. You ever spent 6 figures and stared at Baylor? Like, look what you made me do. Started with a queue that are waiting line.
Toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM et il est 20h38, c'était Sprinter de Central Cee et Dave. La poésie revient dans le studio comme le printemps dehors.
Meuf, s'il te plaît, regarde mieux, il fait 4 degrés dehors, il n'y a plus de saison comme dirait l'autre.
Mais Victoire, t'inquiète pas, Mélina ramène le soleil, n'est-ce pas? Ce soir, tu nous parles d'éco-poésie avec ton invité Dorsen.
Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité.
Il n'y manque que ma petite touche perso.
C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi.
Et oui les filles, ce soir nous recevons Dorsen, auteur du recueil 4 catastrophes aux éditions Vroom Véhicule et du projet Bloom, une série de poèmes publiés en grande partie au sein de différentes revues de poésie. Il est également depuis peu avec Selima, Florian Bardou et Zora Mrad à la tête d'une nouvelle revue, Fun, axée sur l'éco-poésie. Autant investi dans la création poétique que dans sa promotion, il organise aussi des rencontres avec des poètes et des poétesses contemporains, contemporaines, au genre urbain, librairie dans le quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Dorsen, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Cours d'honneur.
Eh bien oui, merci de me recevoir surtout.
Merci à toi d'être là. Tu te définis toi-même comme éco-poète. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est un éco-poète et plus largement ce qu'est l'éco-poésie pour toi ?
Alors l'éco-poésie, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition a priori. Ça rentre dans une conception un peu plus large qui est l'éco-critique aux États-Unis et qui s'intéresse aux relations entre littérature ou art et environnement, les communications entre les deux. L'éco-poésie en tant que telle n'existe pas en tant que notion, ce n'est pas un genre, c'est même pas un courant, mais justement c'est ce qui m'intéresse là-dedans, puisqu'il y a tout à faire, il y a tout à construire. Ce que je veux faire avec l'éco-poésie, et si je me présente comme éco-poète, qui veut rien dire, hein, encore une fois, si on le prend au premier degré, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'aller rechercher justement de nouvelles manières d'écrire nos relations avec l'environnement, non humain, minéral, bref, toutes les formes environnementales qu'elles peuvent prendre, qui ne soient pas forcément... on va dire pollué par la présence humaine, c'est-à-dire de penser une écriture où l'humain prend une place qui est tout à fait relative, ou en tout cas qui soit simplement d'observateur.
Et justement, que ce soit avec quatre catastrophes dont les thèmes centraux portent sur les manifestations physiques du réchauffement climatique, Bloom, une série de poèmes portant sur les méduses, ou encore avec Fun, la nouvelle revue que tu co-diriges et qui met à l'honneur une nouvelle forme de non-humain à chaque numéro, est-ce que tu trouves que la poésie aujourd'hui est un art trop anthropocentré, pardon ? Et si oui, en quoi est-il important de redonner une place aux non-humains dans l'écriture ?
Alors justement, c'est aussi ça l'éco-poésie à mon sens. En réalité, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près un siècle, on va dire, en tant que notion, un peu moins d'un siècle, mais qui s'inscrit dans toute une histoire littéraire qu'on peut dater. En fait, on connaît tous des poèmes, des écrits qui parlent d'animaux ou alors de non-humains en général, même de minéraux. Vous avez tous, je pense, connu, même pas lu, mais Moby Dick, par exemple, ça vous évoque quelque chose, j'imagine. Il y a toute une histoire en fait de l'écriture de nos relations avec l'animal. Sauf que cette écriture, elle se fait toujours au profit justement de la manière dont ça parle de nous en tant qu'humains. C'est-à-dire que même dans Moby Dick, par exemple, il y a une manière de voir la baleine qui est simplement un reflet symbolique de notre propre manière d'être au monde. Or, ce qui nous intéresse avec l'éco-poésie, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des procédés d'écriture qui sont encore à inventer, à rechercher, ce que j'ai essayé de faire avec Bloom, avec les méduses, mais c'est aussi ce que j'ai essayé de faire avec quatre catastrophes, qui vont aller rechercher une autre manière de parler de ce qui n'est pas nous. Et de cette manière, à parler de quelque chose qui n'est pas nous, on va pouvoir enfin parler de l'humain d'une manière un petit peu différente. Et donc, c'est une écriture qui est engagée, qui est fondamentalement politique, parce que ça permet de redéfinir notre place dans une société qui dépasse la société humaine, qui est la société mondiale, la société des éléments, la société des animaux. Enfin bref, le monde comme entité commune qu'on partage avec tous ces êtres.
Est-ce que tu souhaiterais nous donner en exclusivité la première thématique de la revue Fun à apparaître en juin ou pas ?
Alors effectivement, ça c'est le troisième intérêt de l'éco-poésie, comme j'ai dit, c'est politique, et en tant qu'écriture politique, c'est une écriture qui n'est pas seulement solitaire, comme l'est souvent la poésie ou la littérature en général, ou même l'art, la pratique de l'art, c'est une écriture qui est collective, ou en tout cas qui va rechercher une pratique collective, qui va aller rechercher un rassemblement avec différents auteurs, différentes autrices, pour aller produire un discours commun, pour aller chercher justement différentes définitions. Cette première édition de la revue Fun, du collectif Fun, ça porte sur le poulpe pour plusieurs raisons, parce que le poulpe, déjà c'est une référence à Vinciane Després que vous connaissez peut-être, qui a écrit l'autobiographie d'un poulpe, dans lequel elle fait tout un cycle de fausses conférences qui sont absolument incroyables. Je vous promets, il faut le lire. Je vois que les gens sont dubitatifs, mais c'est vraiment un cycle de fausses conférences et de nouvelles qui est vraiment fondateur, et qui reprend lui-même, pour faire toute la généalogie puisqu'on est à la Sorbonne et on fait un peu court, qui reprend lui-même un concept qui est celui d'Ursula Le Guin, qui est une autrice américaine absolument gigantesque de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui va poursuivre ce concept d'éco-poésie en inventant la théro-linguistique, c'est-à-dire la langue des bêtes sauvages. Donc ça porte sur le poulpe, et on va aller essayer d'écrire le poulpe, c'est-à-dire de dire le poulpe sans forcément que ça soit une métaphore de notre humanité ou de la manière dont nous ne sommes pas assez humains. Bref, on va essayer d'aller parler du poulpe.
De faire de la poésie tentaculaire, si je peux me permettre, si tu me l'autorises.
Tentaculons.
Ton recueil 4 catastrophes est un recueil d'éco-poésie dont les poèmes sont, comme l'indique la quatrième de couverture, élaborés pour se révéler à haute voix. Une version audio intégrale du recueil est d'ailleurs disponible en scannant un QR code à la fin du livre. Est-ce que cette position centrale de l'oralité dans ton œuvre traduit le besoin de renouer avec une poésie plus traditionnelle qui se serait perdue au profit d'une poésie plus esthétique, héritée de l'art pour l'art au 19e ?
Oh là là. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Effectivement, l'art pour l'art, j'avoue que avec ce concept d'éco-poésie, ça tombe un peu à l'eau, puisque même s'il y a un souci esthétique qui est très fort, on est quand même dans une écriture, dans un geste littéraire, il n'y a pas forcément justement de déconnexion avec le réel, puisque c'est le réel qui nous inspire en tant que tel, scientifique, culturel, politique, et qu'on va pouvoir intégrer dans le poème. Donc l'art pour l'art, effectivement, il me semble dans ce geste-là, n'a pas beaucoup de pertinence. De la même manière, l'oralité, elle permet là aussi de faire collectif, puisqu'elle permet d'aller chercher de nouveaux publics. Je vois que vous avez fait une très jolie chronique sur les scènes ouvertes à Paris, et justement la poésie contemporaine, elle fonctionne beaucoup comme ça, parce qu'elle s'était enclose dans un espèce de milieu où c'était très intello, ou en tout cas à lire pour des initiés, c'était quelque chose à décrypter, enfin c'était vraiment un plaisir universitaire, quoi. Et avec les scènes ouvertes, on retrouve un contact beaucoup plus direct avec de nouveaux publics, c'est-à-dire que l'écriture va devenir l'oralité va devenir un média, un moyen de dire le texte, mais aussi une finalité, c'est-à-dire qu'on écrit pour être lu, pour que le texte soit lu à haute voix, pour qu'il résonne à l'oreille. Et ça me semble hyper intéressant quand j'ai fait ce boulot-là de mettre en son mon recueil avec Maya Foucault, qui est comédienne, et Akwila Klanga, qui est créateur sonore. On a vraiment pensé ça, que ce soit les ambiances sonores tout autour, ou que ce soit même la manière de dire le texte, pour que ça frappe l'oreille, pour que ça chope les sens et pas seulement l'esprit. C'est-à-dire que la poésie devient une expérience totale et pas seulement justement ce plaisir qui peut être un petit peu intellectuel, que j'aime beaucoup aussi, hein, évidemment, mais vraiment une expérience sensible, forte.
Ça participe à la démocratisation de la poésie aussi.
Il me semble, je ne sais pas très bien ce qu'on peut mettre derrière cette idée de démocratisation. C'est sûr qu'on essaye de faire circuler en tout cas le dire poétique, quelle que soit la manière. Encore une fois, si vous êtes dans la moindre scène ouverte à Paris ou ailleurs, à Lille, le cirque électrique, le cirque, bon bref, voilà, qu'importe. Vous allez voir que en fait, c'est une parole qui est très accessible la plupart du temps, qui chope directement. Donc c'est pour ça qu'on peut la récupérer et nous aussi, à notre tour, monter sur scène pour devenir éco-poète ou éco-poétesse.
Et tu as justement choisi de nous interpréter deux extraits, un issu de ton recueil 4 catastrophes et l'autre de ton projet Bloom. La parole est à toi.
Un trou. Il y a un trou. Il y a un trou dans les nuages. Dans les nuages, il y a un trou. Un trou qui n'était pas là avant. Un trou qui s'est fait tout seul, peut-être comme ça. Ou peut-être les nuages comme ça se sont pris dans la poignée d'une porte, peut-être. Et que le bout de la poignée a traversé les couches de nuages et a fait un trou. On ne sait pas. Peut-être aussi que quelqu'un a vu un nuage dépasser du reste, un rien, un fil, une peluche, une bête imperfection textile, et a commencé à tirer dessus doucement avec deux doigts pour le faire disparaître, et puis, une fois qu'il a commencé à tirer, il n'a pas pu s'arrêter parce que c'était plus fort que lui, parce que on a envie d'aller au bout, de voir ce qu'il y a, combien de fil encore, et il a tiré entre ses deux doigts pincés sur le petit fil de nuage, et à force ça a fini par faire un trou. Alors, en le voyant, il a arrêté de tirer, mais c'était déjà trop tard. Le trou était fait, déjà là. La maille finie, béante, et il s'est senti très soulagé et très stupide en même temps d'avoir gâché ces nuages comme ça, très, très soulagé d'avoir eu le courage, d'avoir découvert le fin mot de l'histoire, d'être sorti du labyrinthe comme ça, peut-être, on ne sait pas, en tout cas, il y a un trou. Il y a un trou dans les nuages. Un trou. Il y a un trou dans les nuages, de toute façon il y a un trou, quelle qu'en soit la cause, peut-être il y a un ciel qui portait les nuages et s'est pas rendu compte, il a enfilé ses nuages comme tous les matins, et il a pris le métro comme tous les matins, et il s'est rendu à son travail de ciel au-dessus d'une zone industrielle peut-être, ou d'un coin de campagne, et en le voyant arriver avec son trou dans ses nuages, ses collègues ciel ont rien dit, mais ils sont jetés des regards de ciel en ricanant bêtement dans son dos. En le montrant de leurs grands doigts bleus de ciel, pendant que le ciel inconscient s'est rendu à la machine à café pour prendre peut-être le premier de la journée, celui qui réveille, celui qui donne des couleurs au ciel comme ça, malgré le trou dans ses nuages, il n'a même pas froid. Il n'a même pas froid parce qu'il pense à autre chose. Le ciel aux nuages troués pense qu'il veut changer de métier, au moins de branche. Il veut travailler en centre-ville, on ne sait pas, peut-être à la campagne où il investira dans une vieille baraque à retaper, une baraque trouée jusqu'au bout, ou bien devenir un ciel de plage. un ciel de haute mer, même s'il n'a pas le diplôme. Depuis tout petit, c'est un ciel qui regarde par la fenêtre pendant les cours. C'est un ciel qui rêve tout haut, alors... Alors il va quand même aller demander le soleil au ventre à son patron de ciel une augmentation. Une mutation, une métamorphose, peut-être, on ne sait pas. Un changement, en tout cas, dans son ciel de ciel. Sans même se douter qu'avec son trou dans les nuages, son boss va le prendre de haut, son petit rêve de ciel. Son boss, comme tous les autres ciels, son boss, il lui dira d'aller se faire voir ailleurs. Ailleurs, avec son trou ridicule. Son trou dépareillé de nuages, de banlieues sans avenir, son trou sans consistance, son trou en promo surgelé, son trou de grande surface, en tout cas, elle lui dira son boss qu'il y a un trou. Il y a un trou dans ses nuages. Donc ça, c'était le premier poème. Et maintenant, je vais vous lire une petite méduse qui est issue de ce recueil Bloom que j'ai publié dans une quinzaine de revues. Violence des bords de mer ou darwinisme balnéaire, la méduse en vient aux mains. Impasse biologique, ton quartier malfamé regorge d'amateurs d'évolution frelatée, aussi orpheline comme les héroïnes des mauvaises séries B. Il faudra détourner l'attention des touristes pour te faire une place à ton tour au soleil. Tu n'auras pas de grande influenceuse pour partager ta photo filtrée sur Instagram, mobilisant des milliers de cœurs généreux pour la défense de ton milieu naturel. Les filtres, tu as appris à les boucher. Mandy d'abord dans le métro, le grand couloir de Châtelet, fais-toi passer pour aveugle et sourde, casse-toi les membres, présente-leur tes tentacules brisés et ton ombrelle déchirée jusqu'au gong. Organise-toi en milice, deviens gang, et remonte les fleuves jusqu'aux cités bondées, prends le ciel à témoin, tu n'as pas frappé en premier, puis la loi du talion ne te concerne pas à te voir. Ils comprendront que les dents, les griffes, les ailes, la manipulation de l'atome et tout ce que l'évolution a donné au collège privé du bout de la rue ne suffira pas à se défendre de tes uppercuts électriques. Les marais le disent, qui connaissent ta rage froide, cultivée depuis des millénaires dans les rings volcans. Le calme avant la méduse. L'océan est un crochet du droit.
Merci, merci beaucoup d'avoir partagé tes... J'attendais les applaudissements, je les attendais. Merci beaucoup donc d'avoir partagé tes textes avec nous et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
Merci à vous.
On peut te retrouver en librairie avec ton recueil 4 catastrophes aux éditions Vroom Véhicule, le 4 juin prochain à la Maison de la Poésie pour une lecture croisée avec Thomas Bach et le 22 juin prochain aux Arches Citoyennes pour le lancement de la revue Fun. Merci. 22 juin, exactement.
Merci beaucoup d'avoir été là ce soir d'Orsène. Aujourd'hui, Sorbonne en personne change légèrement de visage pour faire un hommage à Georges Forestier.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
On a pour habitude de vous parler des grands personnages de la Sorbonne ayant vécu il y a plusieurs siècles,
mais aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un personnage plus actuel de la Sorbonne, Georges Forestier.
Georges Forestier, historien des formes littéraires, spécialiste de la dramaturgie et surtout professeur à la Sorbonne pendant 25 ans, nous a quittés le 18 avril dernier. Homme de lettres, né en 1951 à Nice, il consacre sa vie au théâtre. D'abord, il l'analyse en étudiant les processus créatifs derrière les chefs-d'œuvre de Molière, Corneille ou Racine. Il dirige également le centre de recherche sur l'histoire du théâtre. Pas mal quand même. Sa méthodologie le pousse à rentrer dans le processus créatif des auteurs qu'il étudie pour en comprendre le génie. Un jour peut-être que c'est le génie de Thomas qu'on étudiera. Mais Georges Forestier ne s'arrête pas là. Le théâtre, il le pratique. Il fonde le théâtre Molière-Sorbonne et met en scène une version revisitée du Malade imaginaire dont deux représentations se font à guichet fermé à l'Opéra Royal de Versailles. Il met aussi en scène Tartuffe qui sera joué à la Comédie Française jusqu'en 2022. Bref, pour continuer son œuvre, célébrer sa jovialité et son héritage universitaire, le théâtre de la Sorbonne continue à jouer jusqu'en mai ses pièces de théâtre. N'hésitez pas car les places sont gratuites pour les étudiants de la Sorbonne.
Voilà, un grand homme nous a quittés, mais nous essayons de faire vivre sa mémoire. Et Jeanne, qui l'appréciait bien ici, voudrait dire un mot sur Georges Forestier.
Et oui, parce que c'était aussi un monsieur qui écrivait beaucoup de livres, donc je vous invite à le lire, parce que sa théorie est très intéressante sur le théâtre, et surtout à vous rendre, si vous pouvez, à son hommage, qui a lieu demain, le 25 avril, à 14h à Serpente.
Eh bien, merci Abel pour ce très bel hommage. C'est déjà la fin de cet épisode de Cours d'honneur.
On le sait, on m'a beaucoup manqué.
Mais en attendant, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur nos plateformes et nous suivre sur les réseaux.
Sans oublier qu'on est là un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris, fréquence 93.9.
Merci à toute l'équipe. Lilou.
Merci les filles.
Abel.
Merci beaucoup.
Jeanne, la malédiction nous a suivis ce soir aussi, désolée.
C'est pas un souci, merci beaucoup l'équipe.
Mélina.
Merci, et merci à mon invité surtout.
Merci beaucoup à tout le monde.
Et bravo à notre recruteur en chef qui, on l'espère, nous a préparé des crêpes. Merci Thomas.
Yo yo yo, ce week-end, ça va déménager à Bagnols. Wouh, la prochaine fois, je vous fais une chronique spéciale combia, promis.
Cette outro, c'est la même que... Bizarrement, c'est la même que Lodine et moi, il y a deux semaines.
Oui, clairement. Recyclé.
On remercie aussi Radio Campus Paris, le service culturel, pour leur soutien, mais aussi et surtout nos chers auditeurs, qui sont, on vous remercie, de plus en plus nombreux.
Pour la prochaine émission, on se retrouve à Bagnols, et comme l'a dit Thomas, on vous promet du lourd.
D'ici là, prenez soin de vous, bisous bisous.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne. We'll